Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Les Landes et du Ciel. Aujourd'hui, nous partirons en voyage au cœur de notre système solaire. Je m'appelle Yves DeAngeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard Bartek.
Bonjour.
Nous habitons une petite bille bleue d'un diamètre de 12 750 km perdue dans l'espace qui tourne autour de notre étoile, le Soleil. Une planète bien hospitalière avec de l'eau, des températures moyennes et de l'atmosphère pour respirer. On a la chance, notre Terre se situe dans ce qu'on appelle la zone habitable autour d'une étoile. C'est une zone où l'eau est à l'état liquide. Si on est plus proche de l'étoile, elle est sous forme de gaz, et si on est plus loin de l'étoile, elle est sous forme de glace. On sait que la vie a besoin absolument d'eau, d'un solvant, quel qu'il soit, mais principalement l'eau, qui va permettre d'améliorer le contact entre les molécules, de pouvoir faire, de solubiliser, on va dire, les molécules, et donc de créer, d'autoriser le développement de cette vie. Notre atmosphère, elle est composée de dioxyde d'azote, elle est composée de dioxygène, elle est composée de diazote, d'argon, dioxyde de carbone, etc., etc. Donc elle est bien parce qu'elle nous permet de respirer. Pour nous, êtres humains, elle nous permet de respirer. Et cette atmosphère, ben, il faut absolument, pour qu'une vie se développe sur une planète, il faut qu'on ait de l'eau et de quoi respirer.
Mais alors, pourquoi cette atmosphère ne s'échappe pas dans l'espace ?
Ben, c'est grâce au champ magnétique qui la bloque, qui l'empêche en fait de s'échapper dans l'espace. Le champ magnétique, il est important sur Terre. Il est créé simplement parce que la planète Terre est considérée vivante. C'est-à-dire qu'on a encore un noyau, autour du noyau qui est la graine au centre de la planète, autour du noyau, on a encore des roches en fusion et on a une croûte terrestre. Et le noyau tourne à une vitesse différentielle, légèrement différente de la croûte terrestre, et ça crée un effet dynamo qui va créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, justement, comme il est très puissant, il va réussir à bloquer l'atmosphère et empêcher que l'atmosphère se dilue et s'échappe dans l'espace. Le champ magnétique aussi, il est très très important parce qu'il va aussi nous protéger du rayonnement de notre Soleil. Notre Soleil, il est intéressant, il nous amène de la chaleur, de la lumière, mais on voit aussi que le Soleil envoie beaucoup, beaucoup de rayonnement. Et si on n'avait pas notre champ magnétique pour nous protéger, eh bien on serait grillé, on serait dans un micro-ondes.
Bon, eh ben c'est bien, allons voir Vénus. Alors en taille et en masse, Vénus est comparable à la Terre. On parle souvent de jumelles. Son atmosphère est très épaisse, 92 bars. C'est chez nous la pression qui existe à 900 mètres de profondeur dans les océans. 96% d'oxygène, 3,5% d'azote. Je rappelle que l'azote, c'est l'air que nous respirons. 3,5%, c'est un petit pourcentage, mais si on le rapporte à la pression, ça fait 4 fois plus que sur Terre. Le vent au sol est faible, mais vu la masse en déplacement, on aurait du mal à tenir debout. Il y a des nuages sur Vénus, beaucoup de nuages, très épais. Ils sont faits d'acide sulfurique qui monte à 68 km d'altitude côté jour et même 85 côté nuit, contre 10 km max sur Terre. Résultat, les rayons du soleil qui pénètrent ne peuvent plus ressortir. C'est l'effet de serre, énorme sur Vénus. Et qui dit effet de serre, dit température élevée. 470 degrés centigrades partout, de jour comme de nuit. C'est suffisant pour faire fondre le plomb, l'étain, le zinc. Évidemment, à cette température, il n'y a pas d'eau liquide sur Vénus. Même si on pense qu'il y en a eu, beaucoup, il y a quelques milliards d'années. C'est d'ailleurs l'évaporation de cette eau qui a fabriqué ces nuages à effet de serre. Donc, de l'eau de l'atmosphère, du gaz carbonique, des rayons ultraviolets du soleil, des réactions chimiques s'amorcent et produisent de l'acide sulfurique. Voilà pour ces nuages d'acide. Pas d'eau, donc, et pourtant, il pleut sur Vénus. Oui, de l'acide sulfurique, qui s'évapore avant d'atteindre le sol. Ah, en fait, est-ce qu'on a déjà observé le sol de Vénus directement ?
Ben, on l'a observé, mais il n'y a pas très très longtemps. Vénus a toujours intéressé un petit peu les astronomes, parce que quand on l'a regardé, on voyait une petite boule jaune avec de l'atmosphère, donc on s'est dit, bon, ça doit ressembler à la Terre, elle avait la taille de la Terre. Donc on s'est dit, potentiellement, ça doit être la sœur jumelle de la Terre, elle doit être intéressante à observer. Donc il a fallu attendre 1962 pour qu'on ait une des premières sondes, une sonde marinaire qui passe et qui étudie un petit peu l'atmosphère. On a eu une petite idée sur ce qui se passait sur Vénus. Et après, ce sont principalement les soviétiques qui ont pris cette partie d'observation, avec toute une série du programme Venera, mais le programme Venera a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a eu une quinzaine d'échecs avant de réussir à faire poser un objet sur le sol de Vénus. comme tu le disais justement, il y avait les problématiques d'acide sulfurique, il y avait les problèmes de pression. Donc les sondes arrivaient à rentrer dans l'atmosphère, mais elles étaient détruites immédiatement. Donc il a fallu comprendre un petit peu ça. Et la première sonde, c'est Venera 8 qui s'est posée. Venera 8, elle a fait un petit peu de relevé, mais elle n'a pas survécu très très longtemps à la surface. Et il a fallu attendre donc les Venera 9, 10 et 13 pour avoir les premières photos. Alors on ne dispose pas de beaucoup de photos de Vénus. Pour l'instant, on a 3 photos de Vénus, 2 en noir et blanc et la dernière, donc Venera 13, qui était en couleur. C'est la seule image couleur qu'on a. Mais après, on a envoyé des sondes, les sondes Magellan, qui elles sont restées en orbite et qui, avec le principe du radar, ont pu faire vraiment une cartographie de Vénus. Et on se rend compte que Vénus, eh ben, elle ressemble à la Terre. C'est-à-dire qu'il y a des collines, il y a des montagnes, il y a des rivières. Bon, c'est un environnement tellurique comme sur la Terre, mais bon, pour l'instant, on sait très bien qu'on ne peut pas y aller. Donc on va se rapprocher, on va quitter un peu Vénus, on va aller encore un peu plus près du Soleil, on va se réchauffer un petit peu, et donc on va découvrir Mercure.
Ouais, alors Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. C'est aussi la plus petite du système, avec un diamètre de 4880 km, c'est-à-dire un tiers de la Terre en gros. Sa masse vaut 52% de la Terre, mais c'est la plus dense des planètes. Tellurique, pour la bonne raison que sa croûte rocheuse ne fait qu'une dizaine de kilomètres d'épaisseur. C'est le cœur qui prend toute la place, avec un noyau métallique, sûrement en fusion, qui fait presque les 2/3 de son volume, c'est-à-dire 61% sur Mercure, 17% sur la Terre.
Ben c'est aussi pour ça qu'on peut estimer qu'il y a des gravités très très importantes, parce que le noyau étant très dense, un noyau de fer étant très dense, on a des gravités qui sont très très fortes. Mais la présence d'un gros noyau ferreux comme ça sur Mercure nous pose encore questionnement. On ne sait pas trop pourquoi il y a ce rapport. C'est vrai que c'est une graine de la planète qui est énorme par rapport au diamètre de la planète. Ben pour l'instant, on ne sait pas encore, donc on va continuer à creuser.
Bon, alors pour l'atmosphère de Mercure, ben le problème il est vite réglé, il n'y en a pas. Ou aussi peu. Toute l'atmosphère de Mercure pèse 10 000 kg, c'est-à-dire 10 tonnes. La gravité de la planète est trop petite pour retenir une atmosphère. La pression est entre 1000 et 100 000 milliards de fois plus faible que sur Terre. Au niveau des températures, on ne bénéficie pas non plus de la rétention de chaleur apportée par l'atmosphère. Du côté jour, on mesure 427 degrés centigrades. Et côté nuit, on passe à moins 183. On a longtemps pensé, depuis Schiaparelli qui a fait l'étude, que Mercure était synchronisée avec le Soleil dans un couplage 1 sur 1 par effet de marée, donc qu'elle présentait toujours la même face au Soleil. En réalité, la précision des mesures a déterminé que la planète est en résonance spin-orbite 3-2. Elle fait 3 fois le tour sur elle-même, pendant qu'elle fait 2 tours autour du Soleil. Ce qui veut dire que 3 jours de Mercure durent 2 ans de Mercure.
C'est pas tellement sympa comme planète ça, parce que il fait 400 et quelques degrés quand on est au soleil et moins 180 quand on est à l'ombre. Et en plus, les durées de l'année et du jour ne sont pas vraiment super agréables.
Il faut rester à la frontière du jour et de la nuit.
Exactement. Donc avant de nous rapprocher de notre étoile, un petit peu voir notre étoile principale, le soleil, on va faire une petite pause pour se reposer, puis pour se préparer, mettre de la crème solaire, parce qu'on va se rapprocher très 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 proche du soleil.
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. C'est l'appel des étoiles dans la ville folle, a changé mon destin d'homme parmi les hommes. retrouver l'essentiel après des années quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu as entre tes mains le soleil de demain.
Bon, eh bien, nous voilà revenus. J'espère que vous avez eu le temps de prendre votre écran solaire. Donc, on va se rapprocher vraiment du soleil. Donc, on va déjà se poser la question, comment est né notre soleil? On avait des idées sur le comment, on en parlera un petit peu plus tard, sur comment se crée une étoile par rapport à une nébuleuse. Mais en fait, il a fallu attendre 2012 pour qu'on ait vraiment un scénario complet du soleil, où on sait que maintenant, le soleil, c'est une étoile qu'on appelle de troisième génération. C'est-à-dire que maintenant, on est quasiment sûr qu'avant que notre Soleil naît, et qu'il génère donc les planètes sur lesquelles nous sommes, il y a eu deux autres séries d'étoiles qui sont nées avant. Donc la première génération, c'était juste après le Big Bang, environ entre 250 et 350 millions d'années après le Big Bang. Il y avait dans l'univers, il y avait énormément d'hydrogène. Donc les premières étoiles qui sont nées, c'était vraiment des supergéantes d'hydrogène. Et donc ces étoiles, comme elles étaient énormes, elles ont consommé très vite, parce qu'une étoile, pour qu'elle se stabilise, il faut qu'on ait un équilibre entre la pression qui a tendance à la faire s'écraser et puis l'énergie qui est développée par le cœur de l'étoile. Et donc pour respecter cet équilibre, l'étoile est obligée de consommer énormément de carburant. Donc elles ont des durées de vie qui sont très très petites, hein. Leur taille, c'est à peu près entre 100 et 1000 fois le Soleil. Des températures énormes de l'ordre de 100 millions de degrés, donc qui n'a rien à voir avec notre Soleil, mais une durée de vie très courte de l'ordre de 3 à 6 millions d'années, donc ce qui est quand même beaucoup plus faible. Donc une durée de vie très très courte, effectivement, qui n'a rien de comparable avec le Soleil. Notre Soleil, lui, il a une vie un petit peu tranquille, c'est une petite étoile. Lui, on a une espérance de vie entre 10 et 12 milliards d'années. Donc c'était ces premières générations d'étoiles qui étaient des étoiles vraiment hyper géantes, hein. Et ces étoiles, quand elles mouraient, comme il y avait beaucoup d'énergie, ça pouvait exploser. Ça faisait des phénomènes cataclysmiques, c'est grâce à ça qu'on avait la transformation d'une grande partie en fait, des atomes de l'univers qui sont transformés dans ces étoiles. Donc c'est la première génération, et la deuxième génération d'étoiles, elle est arrivée environ 10 millions d'années après. Cette deuxième génération, pareil, elle va synthétiser des nuages aussi, ce sera aussi des étoiles qui seront très très grandes. Et ces étoiles-là, elles auront le même cycle de vie un petit peu que les premières. Avec elles, par contre, dans leur composition, il y aura déjà des atomes des premières générations. Donc comment on sait ça? Tout simplement, c'est que quand on regarde, il y a des éléments, il y a des isotopes radioactifs, ce qu'on appelle des marqueurs temporels. On connaît bien le carbone 14 sur Terre pour dater des végétaux, mais pour tout ce qui va être cosmique, on a les étoiles, les premières générations qui vont générer du fer 60. Et on aura les deuxièmes générations d'aluminium 26. Donc en fait, en regardant les composés chimiques des différents astres, on peut savoir si c'est une étoile de première, deuxième ou troisième génération. Donc parmi ces étoiles de troisième génération, se trouve notre Soleil. Et il y a environ 4,5 milliards d'années, il a démarré.
Oui, alors il a démarré. Il est né dans un de ces nuages moléculaires, composés principalement d'hydrogène et d'hélium, large de plusieurs années-lumière. Et probablement, il a donné plusieurs autres étoiles, ce nuage. Une petite instabilité dans le nuage, une onde de choc, de supernova ou autre chose, et des grains de densité se forment en entamant un mouvement de rotation. La gravité entre en action. L'un de ces grains, en grossissant, entraîne l'effondrement d'une partie du nuage. Ce sera la nébuleuse solaire, qui donnera plus tard le système solaire, avec un diamètre de plus de 20 000 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Pendant 100 millions d'années, l'effondrement du nuage se poursuit. La matière se condense, la densité, la température augmentent. Mais pas que. La rotation de la nébuleuse s'accélère, ce qui conduit à son aplatissement comme un disque. C'est le disque protoplanétaire. Le futur Soleil, lui aussi, grossit et s'échauffe. À ce stade, il est appelé proto-étoile. Il ne brille pas encore. Quand, après quelques millions d'années, sa température centrale atteint 10 millions de degrés, des réactions nucléaires s'amorcent. Le Soleil vient de s'allumer. Il rayonne en transformant son hydrogène en hélium. Sa taille va encore augmenter sous l'effet de la gravité, jusqu'à ce que le rayonnement qu'il produit, vers l'extérieur, puisse résister à la gravité qui pousse vers l'intérieur. Il est en équilibre hydrostatique et il le restera pendant 10 à 12 milliards d'années. Alors maintenant, il faut que je le dise. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, il veut dire beaucoup. Il n'y a pas que d'hydrogène et de l'hélium dans ce nuage. Souvenez-vous, on a parlé des générations précédentes d'étoiles qui ont rejeté beaucoup d'éléments dans l'espace. Eh bien, tous ces éléments sont transportés par les nuages moléculaires et on les retrouve dans les disques protoplanétaires. Dans ce disque, les grains de matière vont s'agglomérer après d'innombrables collisions et suivant ce que l'on appelle le modèle standard, les planètes vont se former pendant quelques 10 milliards d'années.
Près du Soleil, il fait un peu trop chaud pour que la glace se condense. Et les petites planètes sont essentiellement rocheuses à cette époque-là, et trop petites pour retenir vraiment le gaz qui va être autour. Donc on va retrouver des planètes avec des noyaux rocheux assez proches de l'étoile. Et quand on va s'éloigner, les températures vont descendre suffisamment pour permettre que les glaces puissent se condenser et on aura des glaces d'eau. Ce qu'on appelle la limite des glaces, c'est la limite, on va dire, qu'on a parlé tout à l'heure de zone habitable. C'est au moment où la température et la pression font que derrière on a de la glace, on n'aura plus de l'eau liquide. Et au-delà de cette ligne des glaces, eh bien, on va retrouver d'autres corps, les glaces et les poussières qui vont s'agréger pour former des petits planétésimaux ou des très très grands planétésimaux qui vont être suffisamment importants pour retenir énormément de gaz. Et ces structures-là vont grossir pour devenir des géantes gazeuses qu'on connaît.
Et il me semble que j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une autre possibilité.
Il y a une autre possibilité. Ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était justement que les éléments les plus lourds n'étaient pas soufflés par le vent de l'étoile et puis restaient à côté de l'étoile. Et que c'était les premières planètes qui se créaient, c'était les planètes telluriques comme la Terre, comme Mars, comme Vénus, comme Mercure. Et que plus loin, on avait nos planètes gazeuses avec un noyau rocheux et puis qui capturaient du gaz. Et en fait, il s'est passé un petit souci, c'est que quand on a commencé à découvrir des exoplanètes qui sont des planètes autour d'autres étoiles, on a trouvé des géantes gazeuses qui n'étaient pas à leur place. C'est-à-dire que d'après notre modèle théorique, ça ne marchait pas. La géante gazeuse du style Jupiter ne pouvait pas être à cette distance-là d'étoiles. Donc on savait qu'il y avait dans notre théorie de fonctionnement, de création du système solaire, on savait que tout n'était pas parfait, mais comme dans la science, hein, rien n'est parfait, on en découvre toujours. Et on s'est posé la question, et il y avait un modèle qui tournait, qu'on appelle le modèle de Nice, parce qu'il était développé en 2005 à l'Observatoire de Nice, qui lui disait que la position des planètes actuelles n'était pas la position des planètes à leur naissance. C'est qu'il y a eu des phénomènes d'attraction entre le Soleil et les planètes géantes, qui ont fait que les planètes ont bougé, ont migré vers l'intérieur du système solaire, et que d'après ce système, c'était les premières qui avaient été créées étaient les planètes géantes. Autour de l'étoile, on avait des petits graviers, on avait la matière qui était disponible là. Et la migration de ces planètes a compressé un peu ce disque proche de l'étoile et a forcé un petit peu, on va dire, l'accrétion de ces petits cailloux. Parce qu'il est plus facile d'accréter des grains de matière quand il y a de la glace par-dessus que quand il n'y a pas de glace. Donc effectivement, c'était plus naturel que ce soit les géantes qui commencent à se construire en premier et que finalement, les telluriques se sont faites après. Et donc ça tombait bien parce qu'on avait plein de problèmes sur la naissance des différentes ceintures, les ceintures de Kuiper, les ceintures d'astéroïdes, le nuage d'Oort. On aura l'occasion d'en reparler sur une prochaine émission. mais on ne comprenait pas trop pourquoi c'était comme ça et comment ça avait été créé, cet élément-là. Eh bien, le modèle de Nice, qui est pour l'instant relativement bien accepté, arrive à expliquer une grande partie de ces théories. Tout n'est pas parfait, mais comme dans la science, rien n'est jamais écrit définitivement.
Bon, revenons à notre Soleil. C'est une étoile de type naine jaune, parce que c'est une petite étoile avec une température de surface de 5800 degrés Kelvin, ce qui donne la couleur jaune. Pour vous donner une idée, la plus grosse étoile de notre galaxie est l'étoile rouge Stephenson, qui est 2150 fois plus grande que notre Soleil. Le Soleil fait partie d'une galaxie appelée la Voie lactée, ou galaxie avec un G majuscule. Il est situé dans le bras spiral d'Orion, à 28 000 années-lumière du centre. On a dit qu'il était composé d'hydrogène et d'hélium, avec beaucoup d'autres éléments en petite quantité. Et sa masse, à lui seul, représente 99,85% de la masse totale du système solaire. Le reste pour les planètes, surtout Jupiter. Après, les astéroïdes, les comètes, etc. Cette masse représente 330 000 fois celle de la Terre et la gravité y est 28 fois plus forte. Son diamètre est de 1,4 million de kilomètres, soit 109 fois la Terre, et sa lumière met 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. Sa température interne est aujourd'hui de 15 millions de degrés Kelvin et en surface 5800 degrés. Alors que la chromosphère fait 10 000 degrés Kelvin et plusieurs millions de degrés Kelvin dans la couronne. Chromosphère et couronne ne sont visibles que lors des éclipses totales. Le Soleil est en rotation dite visqueuse, c'est-à-dire qu'au centre elle est solide, entre parenthèses, et en surface différentielle, ce qui génère de multiples champs magnétiques. Enfin, il possède un cycle d'activité de 11 ans.
Ben justement, ce cycle d'activité, il est visible. Bon, pour nous, astronomes, on peut le voir avec nos télescopes, avec nos coronographes, mais pour on va dire, les gens qui ne sont pas astronomes, vous avez vu, je suppose, au printemps, vous avez vu des aurores boréales. Donc le ciel qui s'embrase, qui devient rouge-orangé, eh bien, c'est directement lié à l'activité du Soleil. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, on a un champ magnétique sur la Terre, avec un pôle nord et un pôle sud. Et donc, l'énergie qui va être éjectée du Soleil, le Soleil, c'est une boule de feu. C'est, imaginez la surface du Soleil, c'est vous prenez une casserole d'eau que vous mettez à bouillir, vous avez ces mouvements de convection qui sont sur l'étoile. Eh bien, des fois, il y a tellement d'énergie dans le cœur de l'étoile que la matière est éjectée du Soleil. Si elle n'arrive pas à retomber sur le Soleil par l'effet de gravité, elle part dans l'espace. Et donc, c'est ce qui se passe lorsqu'on a des aurores boréales ou des aurores australes, c'est qu'il y a une éjection de matière très très importante qui part dans notre direction. Notre champ magnétique direct va arrêter l'impact direct, c'est-à-dire qu'on ne le reprendrait pas immédiatement, mais ça va couler le long du champ magnétique, et le champ magnétique avec le vent solaire a la forme d'une petite plume à l'opposé du Soleil. Et donc ces particules, elles arrivent à aller dans la petite plume qui est moins puissante, qui est moins forte, et à remonter en direction des pôles. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des aurores qui sont situées normalement pôle nord, pôle sud, mais dans le cas comme on a eu là au mois de mai, où l'énergie qui a été envoyée était tellement importante que ça a réussi à redescendre sur les latitudes comme la France, voire même l'Espagne, où on avait eu ces aurores boréales qui sont arrivées. Donc il faut imaginer que le Soleil envoie énormément, énormément de matière, énormément d'énergie. C'est des milliards de tonnes de matière, c'est des vents solaires à 500 000 km par seconde. C'est une boule de feu qui nous bombarde régulièrement. Et justement, le fait qu'on ait un champ magnétique assez costaud nous protège et permet à la vie de continuer à se développer. Comme on l'a vu un petit peu avant, sur les autres planètes, quand on prend Mercure qui est juste à côté, lui, il est dans un micro-ondes, donc il ne peut pas y avoir de vie développée dessus. Le cas de Vénus est un petit peu différent parce que c'est l'atmosphère qui n'est pas propice à la vie. Donc notre voyage va se continuer, on va arrêter là notre petite balade dans le système solaire, on va venir se reposer tranquillement sur la Terre, et en se reposant tranquillement sur la Terre, on va faire le plein du vaisseau, et puis on pourra partir pour la prochaine émission en direction de l'autre côté du système planétaire, on ira visiter un petit peu tous les objets qui sont très très loin, qui en s'éloignant du Soleil. Donc on verra aussi que sur une émission suivante, que notre système solaire, là, on n'a parlé que des planètes, mais autour des planètes, il y a quand même énormément d'objets. On parle d'astéroïdes, on parle de, de comètes, on parle de corps qui sont un peu hybrides entre les deux, qu'on commence à découvrir un petit peu. Donc on ira aussi explorer tous ces petits points, tous ces petits objets qui traînent un petit peu. Et on fera le tour un petit peu, on fera une petite visite dans notre système planétaire, un petit peu pour voir. Et puis ce qu'on peut faire, c'est vous donner par exemple, on parle de planète, mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été... les planètes, on a défini maintenant effectivement ce qu'était une planète parce que pendant l'exploration, on a commencé à trouver derrière Pluton, on a trouvé d'autres objets, Sedna et ainsi de suite, qui étaient des gros astres, qui étaient aussi importants que des fois notre Lune à peine. Et on s'est dit qu'il fallait définir un petit peu ce qu'était une planète. Donc à un moment, il a fallu prendre une décision et cette décision, elle était prise en 2006 où il a fallu arrêter ce qu'était une planète. Et ce qu'est une planète, eh bien, c'est l'Union Astronomique Internationale qui a décidé qu'une planète avait une définition bien particulière. Donc c'est un corps qui orbite autour du Soleil. Ça, il n'y a pas de souci. Tous les corps, théoriquement, orbitent autour du Soleil. Il a une masse suffisante dans sa définition, suffisante pour que la gravité l'emporte sur les forces de cohésion du corps solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au-dessus d'une certaine taille, naturellement, un corps devra être sphérique. Donc déjà, il faut que ça soit autour du Soleil, que ça soit sphérique, et qu'il ait nettoyé un petit peu tout ce qui était sur son voisinage. C'est-à-dire que c'est un corps qui a enlevé, qui a nettoyé tout ce qui traînait un petit peu dans l'espace. Donc ça, c'est la définition qui a vraiment déterminé ce qu'étaient les planètes. Malheureusement pour Pluton, on n'en parlera pas dans ces émissions, parce que Pluton n'est plus considéré comme une planète, hein, c'est une planète naine. Parce que cette planète naine, en fait, elle n'a pas nettoyé le voisinage de son orbite, donc elle ne peut pas être considérée comme une planète. Et donc on a défini planète naine, et le reste, c'est tous les petits corps qui traînent dans l'espace, les comètes, astéroïdes, qui eux aussi ont eu une définition. Et pour se rappeler un petit peu de l'ordre des planètes, hein, pour l'instant on n'a pas vu beaucoup, hein, on a vu uniquement trois planètes. On a des petites phrases, alors je vous laisserai aussi jouer pour trouver des phrases qui sont sympas. Richard, je vais te donner la parole.
Oui. Oh ben, on peut dire par exemple, me voici tout mouillé, je suis vu un nuage.
Voilà, donc il suffit simplement de prendre la première lettre de chaque mot et vous avez l'ordre des planètes. Par exemple, mon vaisseau te mènera jusque sur un nuage.
Me voilà toute mignonne, je suis une nébuleuse.
Voilà. Et donc, amusez-vous à trouver des petites phrases. Pour mémoriser un petit peu l'ordre, et puis je vous dis à la prochaine émission, on va partir explorer un petit peu le fond de notre système planétaire et puis découvrir de nouveaux objets. Donc bon ciel à toutes et à tous, profitez-en si les nuits sont belles pour lever un petit peu le regard vers les étoiles. On a toujours en hiver des pluies d'étoiles filantes qui sont très très intéressantes. Bon, il fait un peu frais pour aller à partir de 2h du matin regarder l'étoile filante.
Oh, on met un cauchemar.
Voilà, il suffit de s'équiper correctement. Et pour ceux qui peuvent venir voir les clubs d'astronomie, je vous rappelle qu'il y a encore une comète qui est visible le soir. On ne la voit plus à l'œil nu, mais maintenant on peut commencer avec des bonnes paires de jumelles ou au télescope, on pourra continuer à observer cette belle comète. Donc je vous dis à très bientôt et bon ciel à toutes et à tous. C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astroclub du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.